Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs, je vous souhaite un très agréable sabbat. Le Proche-Orient, dans la culture francophone, correspond souvent à la portion géographique des pays du Moyen-Orient qui se trouve à l'ouest de l'Euphrate. Autrement dit, l'ancienne frontière orientale de l'Empire romain qui s'arrêtait, en effet, au bord de ce grand fleuve épique et historique. Ainsi, nous pouvons voir que l'Iran, l'ancienne Perse, se trouve à l'est de l'Euphrate et serait donc plutôt considéré géographiquement comme faisant partie de ce que les Britanniques appellent le Moyen-Orient. Oui, c'est une appellation d'origine britannique et puis maintenant anglo-saxonne, les Américains disent la même chose, par extension linguistique. Et parallèlement, le Liban, la Syrie, Israël, la Jordanie, l'Égypte et les pays arabes entreraient plutôt dans l'ensemble géographique qu'il est convenu d'appeler en Europe, le Proche-Orient. On note d'ailleurs que l'Euphrate est une séparation géographique tellement importante, même de nos jours, qu'il sépare presque parfaitement les deux grands courants de l'islam, les courants principaux. D'un côté, l'islam sunnite, à l'ouest, le Proche-Orient, et l'islam chiite, à l'est, le Moyen-Orient, qui s'étend donc, lui, en réalité, de l'Iran jusqu'au Pakistan. Notez bien que les notions politiques et journalistiques qui différencient le Proche-Orient du Moyen-Orient fluctuent énormément de nos jours. Il y a beaucoup de conceptions, si bien qu'une poule n'y retrouverait pas ses poussins, comme on dit. Le point de vue que je vous propose aujourd'hui est, elle, une perspective chrétienne, historique et biblique. Parmi les connaissances à retenir à propos du Proche-Orient, il convient de s'en rappeler au moins deux. Ce sont des choses absolument essentielles. Premièrement, le Proche-Orient est le point focal géographique de Dieu, et au cours des siècles, les adeptes des trois principales religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, se sont battus pour le contrôle du Proche-Orient. Deuxièmement, ces guerres ancestrales, centrés sur le Proche-Orient, trouvent leur origine dans des querelles familiales. Donc ces deux éléments cognitifs fondamentaux sont absolument primordiaux. Si l'on veut comprendre ce qui se passe de nos jours dans cette partie du monde, dans cette partie centrale du monde, et pour mieux comprendre aussi les raisons des événements qui vont se succéder dans notre avenir très proche maintenant. Pour nous, chrétiens du XXIe siècle, tout commence dans l'Ancien Testament. En effet, comment pourrions-nous ignorer que le christianisme est l'une des trois religions abrahamiques, ou encore que l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Galates que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham, ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Or, nous le savons, la foi de Jésus-Christ, eh bien, c'est notre fondement, c'est notre fondation. Il est question ici de la même foi originelle, la foi originelle d'Abraham était la même que celle de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que la foi vient de Dieu. Et nous aussi, nous avons besoin de la foi de Jésus-Christ. Ainsi, la terre sainte fut donnée à Abraham. Puis, selon la tradition héréditaire du droit d'aînesse, elle fut donnée à Isaac, puis à Jacob, le père des 12 tribus d'Israël. Jacob, son nom a été changé en Israël, rappelez-vous. Eh bien, les Juifs sont les descendants de Jacob. Ils revendiquent donc, et ceci depuis 1948, et à juste titre, la terre d'Israël qui leur a été donnée par Dieu, selon ses promesses aux trois patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Donc tout au long de l'histoire humaine, les Juifs ont subi d'innombrables persécutions. Et le sionisme lui-même, quand on étudie le sens de ce mot, n'est rien d'autre que le désir de vie et de servir et de survie paisible du peuple juif au sein de la terre promise. Le mont Sion, c'est le mont de Jérusalem. C'est donc la ville de Jérusalem. Il n'est nullement question dans le sionisme d'un quelconque projet de conquête mondiale. Quand on évoque la détresse des Juifs dans l'histoire, on pense souvent à une jeune fille, célèbre, entre toutes. Je veux parler bien sûr de Anne Frank, dont le journal est resté ancré dans nos mémoires. Voici ce qu'elle écrivit le 11 avril 1944. « Qui nous a rendus, nous les Juifs, différents de tous les autres peuples? Qui a permis que nous souffrions tant jusqu'à présent? Dieu nous a créés tels que nous sommes, mais c'est aussi lui qui nous relèvera. Qui sait ? » écrit-elle. « Il se peut même que ce soit à cause de notre religion, de laquelle le monde et tous les peuples du monde tirent du bon, de notre religion et rien d'autre, que nous ayons à souffrir à présent. Nous ne pourrons jamais devenir seulement Hollandais ou Anglais ou n'importe qui d'autre, dit-elle, nous serons toujours Juifs. » Espérons que nous nous rappellerons toujours de la Shoah, de l'Holocauste, de la Deuxième Guerre mondiale, au cours duquel 6 millions de Juifs ont été exterminés par les nazis dans les camps de concentration. Anne Frank elle-même fut déportée au camp de concentration de Bergen-Belsen, où elle mourut du typhus à l'âge de 15 ans. Elle aurait aujourd'hui probablement 100 ans. Mais les commentaires de son journal n'ont pas disparu. Et ils résonnent comme autant de vérités éternelles sur l'avenir ultime et merveilleux que Dieu réserve effectivement au peuple juif. Vous savez, l'histoire de l'antisémitisme dans la Bible remonte au moins au 5e siècle avant notre ère, en Perse, en Iran actuel si vous voulez. Et le livre d'Esther dans l'Ancien Testament parle d'un homme puissant qui cherchait déjà à exterminer tous les juifs. Cet homme, nommé Aman, vivait au temps de l'empereur Xerxès le Grand. Mais cela n'était en fait que le début de ce phénomène terrible, l'antisémitisme, cette horrible appétence génocidaire dirigée contre le peuple juif. Quelques siècles plus tard, on pouvait déjà lire des auteurs grecs et romains, comme par exemple Lysimaque, Poséidon, Apollonius, Molon, Appion et Tacite, qui ne cachaient pas leur haine des juifs. Et tout cela a dramatiquement pris corps lorsque vers 167 avant notre ère, le roi Séleucide Antiochos IV, dit Épiphane, envahit la Judée. Ce fut un événement tragique, violent et macabre au cours duquel des milliers de juifs furent exécutés pour avoir simplement refusé d'abandonner leur religion au profit de cette culture grecque qu'on voulait leur imposer. C'est au cours de ces événements que l'infâme abomination de la désolation, retenez bien ce terme, au cours de cette infâme abomination de la désolation, que cet événement apparut. En effet, lorsque le tyran Antiochos commit volontairement un certain nombre d'atrocités dans le temple même de Dieu, il s'éleva lui-même contre la religion de Dieu, contre son serviteur, le peuple juif. Et il en est question d'ailleurs dans la Bible, dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 11. Un rabbin américain, Kalman Pakuz, a rédigé en 2008 un article intitulé « Pourquoi détestent-ils les Juifs ?». Il est toujours d'ailleurs publié sur Internet, et il dit notamment ceci. Entre 250 avant notre ère et 1948, la date de la création de l'État moderne d'Israël, c'est-à-dire presque deux millénaires, les Juifs ont été expulsés de plusieurs pays d'Europe, écoutez bien, à plus de 80 reprises, soit pratiquement une fois tous les 20 ans. C'est donc un phénomène très ancien et qui n'a certainement pas commencé avec la Shoah en 1942. Déjà, bien avant la première croisade, il y a eu en Europe, dans le nord de la France et en Allemagne, des persécutions organisées, des pogroms, des cas extrêmes d'expulsion et même des tueries, à tel point que les historiens reconnaissent que presque un tiers de la population juive a été massacrée. Savez-vous, par exemple, que lors de la première croisade, en 1099, avec la prise de Jérusalem, la folie guerrière des croisés catholiques l'épousa à mettre le feu aux synagogues dans lesquelles les Juifs s'étaient réfugiés. En Angleterre, le roi Édouard Ier décida en 1290 d'expulser tous les Juifs du royaume et il fallut attendre presque quatre siècles avant que le régime parlementaire d'Olivier Cromwell ne leur permettent de revenir sur la terre d'Angleterre. En Espagne, au cours de la reconquête des royaumes chrétiens, la Reconquista vers la fin du Moyen-Âge, les Juifs se sont retrouvés avec le choix unique, soit de se convertir au catholicisme, soit de subir la peine de mort. Et comme on pouvait s'en douter, eh bien des milliers d'entre eux furent massacrés ou brûlés vifs. Ils ne s'en sont pas laissés compter. Finalement, lorsque l'Espagne fut reconquise des mains musulmanes, tous les Juifs en furent expulsés, c'est-à-dire les survivants de l'Inquisition espagnole, responsables de l'exécution de milliers d'entre eux. Quand la peste noire décima l'Europe au Moyen-Âge, beaucoup de Juifs furent accusés de l'avoir provoqué. À Strasbourg, une ville du Saint-Empire romain germanique, alors en 1348, près d'un millier de Juifs furent brûlés vifs, avant même que la peste n'ait encore touché la ville. Imaginez cela. Ainsi, que ce soit en Europe ou en Russie, les expulsions, les massacres de Juifs se sont succédés à chaque siècle jusqu'au XXe siècle. On a souvent parlé des horribles persécutions menées contre les protestants pour leurs croyances différentes de celles des catholiques. Et c'est vrai. Par exemple, dans le livre des martyrs, écrit par John Fox en 1563, on y trouve un récit de tous ces massacres. Mais il faut reconnaître que, quand même, en comparaison, la souffrance des Juifs a été bien plus longue dans l'histoire de l'humanité. Elles ont été bien plus nombreuses, bien plus cruelles aussi. Elles ont été étalées sur une période bien plus large. Donc voilà pour le bilan de l'antisémitisme européen et catholique. Déclarons-le clairement, disons-le sans embâge, telles sont les choses. Et il y aurait encore beaucoup à dire avec l'affaire Dreyfus, ou encore avec l'entre-deux-guerres. Mais maintenant, j'aimerais passer à une autre forme d'antisémitisme, et c'est là que nous entrons dans un thème particulièrement actuel. Qu'en est-il de l'antisémitisme de nombre de musulmans? Est-ce une légende, ou bien est-ce une réalité? D'après le docteur Dallas Rourke, auteur d'un article du blog intitulé « Pourquoi les musulmans détestent-ils les juifs ?», la haine tenace qu'éprouve une grande majorité de musulmans à l'encontre des juifs date de l'époque de Mahomet. Notons au passage que cette haine a pu naître déjà du temps, c'est vrai, un temps bien avant, du temps des deux fils d'Abraham, Ismaël et Isaac, dont les noms sont cités justement dans la Bible. Nous voyons déjà les moments précurseurs de cette haine. Donc, dans son article, le docteur Rourke cite plusieurs déclarations tirées du Coran à propos des Juifs. Par exemple, dans la sourate numéro 5, la cinquième sourate dite de la table servie au verset 60, on y parle de la plupart des gens du livre, autrement dit la Bible, autrement dit les Juifs, où il est dit qu'ils sont, je le cite, « ceux dont Allah a fait des singes et des porcs ». Il est dit aussi que ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit. Et dans la deuxième sourate dite de la vache, au verset 65 et 66, il est écrit ceci, « Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressent le sabbat, ou qui transgressèrent le sabbat. » Donc là, il est question des Juifs, c'est absolument certain. Je continue, « Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. » Voilà ce que dit le Coran sur les Juifs, et aussi sur les premiers chrétiens, qui eux aussi observaient avec raison le sabbat du septième jour, le saint sabbat de Dieu. Mais que dit la Bible? Que dit la Bible de son côté? Parce que la Bible dit certaines choses aussi sur les Juifs. Notamment la Bible, je pose la question, annonce-t-elle que les Juifs ne seraient jamais châtiés? Eh bien non. La Bible révèle que Dieu a puni les Juifs, ainsi que les autres tribus d'Israël, donc la tribu de Juda, les Juifs, et puis les autres tribus d'Israël, pour leur désobéissance, notamment vis-à-vis du sabbat de Dieu, qu'il transgressait. Par contre, la parole inspirée de Dieu, et c'est là que le Coran est en désaccord avec la Bible, la parole inspirée de Dieu dans la Bible ne déclare nulle part, que Dieu aurait changé certains êtres humains en animaux, comme le dit le Coran. Mais alors, pourquoi Mahomet s'est-il autant irrité contre les Juifs? Nous savons qu'il voulait être accepté en tant que prophète. Il aurait reçu, nous est-il dit, nombre de prophéties, et comme on pouvait s'y attendre, il tenait bien sûr à être pris au sérieux. Or, les Juifs de son temps ne le reconnaissaient pas comme un prophète et un vrai prophète de Dieu. Les Juifs ont d'ailleurs toujours été entraînés à reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète. Comment? Par exemple, premier critère, est-ce que ce que dit le candidat prophète est conforme à la loi, aux écrits et aux autres prophètes d'avant? Premier critère, et certainement le plus important. Donc Mahomet est très irrité contre les Juifs de son temps, qui refusent de le considérer comme un prophète. Mais les choses n'en sont pas restées au niveau des paroles. Et des actes s'en sont suivis, des actes n'ont pas tardé à suivre, à tel point qu'au cours d'une campagne de représailles contre des Juifs qui vivaient en Arabie, au cours d'une de ces attaques, il fit prisonnier entre 600 et 700 hommes qui s'étaient rendus, qui étaient donc sans défense, qui étaient prisonniers, et il les fit exécuter par décapitation. De nos jours, nous voyons bien que l'antisémitisme dans le monde musulman atteint maintenant des niveaux inégalés. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le moins ou d'expliquer ou de suggérer le moindre doute à ce sujet. Mais déjà, rappelez-vous, il y a plus de 10 ans, en mars 2013, le leader iranien Mahmoud Ahmadinejad déclarait que l'existence du régime sioniste est une insulte faite à l'humanité entière. Et pire encore, au même moment, un groupe allié du mouvement terroriste Hamas, dans la bande de Gaza, a officiellement déclaré ceci: « Dieu soit loué de ce que tu as fait de nos massacres des Juifs, un acte d'adoration par lequel nous sommes plus proches de toi. » Une déclaration qui ne laisse évidemment aucun doute au sujet de l'identité réelle du Dieu auquel le Hamas voue son adoration. En France, les actes antisémites ont presque quadruplé en 2023 par rapport à 2022. En Allemagne, au Danemark, en Angleterre, aux États-Unis, les actes antisémites ne cessent d'augmenter depuis les attentats du 7 octobre 2023. Eh bien, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 35, les versets 5 à 6, le prophète s'adresse aux habitants d'Édom et à leurs descendants à la fin de l'ère présente, et il déclare ceci: « De la part du Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre. » Ézéchiel, chapitre 35, versets 5 à 6. « Parce que tu avais une haine persistante, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël, au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Écoutez bien, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. » Et nous voyons ici une répétition, textuellement, dans la Bible. C'est-à-dire une phrase qui s'accomplira avec certitude dans la tradition biblique. Qui plus est, c'est Dieu qui parle directement. Quand une déclaration divine est répétée une seconde fois, il faut sérieusement faire une pause et méditer un instant sur la gravité de l'accomplissement inéluctable de ces paroles du Dieu créateur. Et c'est ainsi que nous voyons ici cette haine persistante contre les Juifs, qui subsiste exactement comme Dieu l'avait annoncé, même à notre époque dite éclairée. Alors bien sûr, toutes ces choses qui n'en finissent plus d'arriver, qui n'en finissent plus d'enfler ou de métastaser, nous poussent évidemment à nous poser la question: Quand tout cela a-t-il commencé? Et puis aussi, pourquoi? Quelles en sont les raisons? La réponse se trouve au tout début de la civilisation humaine. Après avoir créé les tout premiers êtres du règne humain, Adam et Ève, le Créateur Dieu les avait placés dans un magnifique parc naturel familial qu'il avait créé spécialement pour eux, le Jardin d'Éden. Et il leur donna des instructions très simples, prospérer, croître, s'installer sur toute la surface terrestre, tout en dominant sur tout le règne animal. Ils pouvaient manger de certains animaux, mais ils ne devaient pas manger de certains autres animaux. Alors, je dis cela implicitement, ce n'est pas écrit textuellement dans le livre de la Genèse. En revanche, rappelez-vous, Abel, fils d'Adam, fit une offrande des premiers-nés de son troupeau. Il connaissait donc la différence entre les animaux purs et les animaux impurs. Tout comme Noé, d'ailleurs, des siècles plus tard, et cela bien avant Moïse, et bien avant le 11e chapitre du Lévitique, qui nous donne de façon détaillée la différence entre les animaux purs et les animaux impurs. Eh bien, Dieu donna à Adam et Ève, de même, tous les arbres fruitiers qui étaient bons pour leur nourriture. Mais il en interdit un tout spécialement. Cet arbre était en évidence, il était au beau milieu du jardin, tout le monde pouvait le voir. Cet arbre portait un nom, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, c'est un symbole, mais c'était un arbre. Dieu ne ment pas. Il y avait bel et bien un arbre, et il y avait bel et bien un fruit. Un fruit abondant, magnifique sur cet arbre. Cet arbre représentait très clairement ce qu'on en appelle aujourd'hui, donc, la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire l'humanisme. La façon, la capacité, la décision des humains de vivre leur propre vie, en dehors des instructions de Dieu, très clairement, en dehors de la religion de Dieu. Et d'ailleurs, nous voyons clairement de nos jours les dérives honteuses et manifestes de l'humanisme et des prétendues lumières de la philosophie païenne. C'est évident. L'homme est devenu son propre Dieu avec un D minuscule. Un D minuscule, c'est le cas de le dire. Chacun peut décider s'il le veut, ce qu'il veut, devenir une femme, ou inversement. La désobéissance aux instructions divines est patente, elle est célébrée, elle est encouragée, avec toutes les tragédies inévitables qui en découlent et qui affectent de nos jours et depuis des siècles, l'ensemble de la société humaine. Mais revenons-en aux tout premiers êtres humains. Adam et son épouse Ève. Malgré la mise en garde de leur père, de leur créateur, ils ont choisi de croire à un être qui est venu dans leur vie et qui a pu leur parler. Dieu n'avait pas permis d'ailleurs à cet être de leur apparaître sous une forme humaine, mais il lui a permis de leur apparaître sous la forme d'un animal, un serpent. C'était le choix de Dieu. Adam et Ève savaient que cet animal était l'un des plus rusés, autrement dit l'un des plus fins, l'un des plus subtils des animaux, fine mouche, mais aussi maléfique, dans le cas de cet animal, dans le cas de cet être, trompeur, hypocrite et sournois. Ils auraient sans doute dû être sur leur garde, il est facile pour nous de les juger, ils savaient bien que l'un de ces animaux, maintenant, allait leur parler. Attention, aurait-il dû se dire, attention, celui-là, c'est un malin, c'est une fine mouche. Mais qui était donc cet être derrière cette couverture animale? Qui était cet être qui n'avait pas reçu l'autorisation de leur apparaître sous une forme humaine ou autre que celle d'un animal, un serpent? Eh bien, son nom est l'adversaire, en hébreu, Shatan, Satan. Nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 9. Apocalypse 12, 9. Et d'ailleurs, Satan mérite bien son nom d'adversaire. En effet, l'une des premières choses qu'il a dit à Ève, c'est que Dieu leur mentait. Quelle audace! Et en persuadant Ève de manger de ce fruit interdit, Satan a réussi à influencer les tout premiers êtres humains à choisir un style de vie différent, indépendant de celui de Dieu, qui, dans sa sagesse suprême, dans sa bonté suprême, dans son amour paternel suprême, les avait encouragés à choisir pour leur propre bien, pour leur prospérité et pour leur bonheur, l'obéissance à Dieu. Or, que voyons-nous aujourd'hui? L'unité familiale des débuts de l'humanité n'est pas revenue à la surface. Le choc des valeurs entre Dieu et le monde influencé par Satan d'autre part continue. Aujourd'hui, bien entendu, les affrontements dépassent largement les simples divergences d'opinion au sein d'une famille. Nous atteignons quasiment un paroxysme dans les divisions. Les querelles de clochers, les divisions politiques au sein des nations sont légion et depuis longtemps. Et au final, les guerres, les rancunes entre cultures n'en finissent plus. Et ceci depuis des siècles. Il semble qu'elles atteignent maintenant véritablement un sommet. La prophétie biblique dans le livre de Zacharie au chapitre 12, verset 3 et 14, verset 1, Zacharie 12, 3 et 14, 1 à 2, signale que Jérusalem sera au centre d'un conflit mondial au temps de la fin. Il est donc fondamental que nous comprenions l'origine et certaines des raisons qui expliquent ce conflit multiséculaire entre Juifs et Arabes, un conflit qui s'étend sur plusieurs siècles. La Bible montre que les Juifs et les Arabes sont liés par un ancêtre commun. Un homme appelé Abraham, dont le nom fut changé plus tard en Abraham. Les deux premiers fils du patriarche étaient Ismaël, né de la servante Agar. Et puis, il y a eu aussi un nouveau-né qui s'appelait Isaac, né de la femme d'Abraham, Sarah. Ismaël est devenu le père de nombreux peuples arabes, et Isaac est devenu le grand-père de Juda, le père de tous les Juifs, le père de la nation juive. Abraham aimait ses deux fils, Ismaël et Isaac. Mais Dieu avait préalablement déterminé que les grandes promesses d'un sauveur pour l'humanité et de grandeur nationale pour les descendants d'Abraham s'accompliraient principalement à travers l'enfant que lui, Dieu, a miraculeusement donné à Sarah, alors qu'elle était hors d'âge de concevoir. Nous lisons ce récit dans les chapitres 12 et 17 de la Genèse. Ainsi, la bénédiction du Messie, né de la Vierge Marie, viendrait par l'intermédiaire des descendants d'Isaac, d'Israël et de Juda. Bien sûr, Ismaël est devenu lui aussi le père de grandes nations, comme il nous l'est dit dans Genèse chapitre 25, verset 16. Ainsi, la maison d'Abraham a commencé avec un mari et ses deux femmes, qui chacune allait devenir mère, aurait un enfant. Et comme on pourrait s'y attendre, les problèmes n'ont pas tardé dans cette famille bigame à surgir entre les épouses Agar et Sarah. En effet, tout ceci allait à l'encontre de l'instruction divine contenue dans Genèse chapitre 2, selon lequel le mariage, eh bien, c'est l'union d'un homme et d'une femme, un homme et une femme. En conséquence, Agar et son fils Ismaël furent éloignés d'Abraham et de Sarah. L'amertume d'Agar s'est transmise à son fils Ismaël et elle continue encore aujourd'hui à travers les rancunes ancestrales qui se font jour entre Arabes et Juifs. Les deux familles sont toutes les deux descendantes d'Abraham. Le même père, chacune revendique le pays de Canaan, la terre promise, donnée pourtant à Abraham comme une possession éternelle. Toutefois, notez bien que l'héritage promis à Abraham s'étendait bien au-delà de la Palestine, bien au-delà. Le texte biblique, en effet, mentionne aussi la péninsule arabique, ainsi qu'une partie de l'Égypte. à l'est du Nil. La religion musulmane est similaire au christianisme et au judaïsme traditionnel dans la mesure où elle déclare croire en un Dieu unique. Ça, c'est le point commun. Et aux prophètes de la Bible. Une différence majeure, c'est que Mahomet, le fondateur de l'islam, est considéré par les musulmans comme le dernier et le plus grand prophète de Dieu. Un point de vue que ne partagent ni les chrétiens, ni les juifs. En raison de leur respect mutuel pour la Bible, eh bien, on pourrait penser que ces trois religions pourraient coexister quand même pacifiquement. Malheureusement, cela ne s'est pas avéré être le cas. Les trois religions ont eu des adeptes fanatiques qui ont préconisé et qui ont toléré de mauvais traitements infligés à ceux qui sont différents d'eux. D'où l'antisémitisme. Dans le monde musulman, par exemple, au XVIIIe siècle, un homme nommé Mohammed ben Abdel Wahhab a fondé un mouvement sunnite appelé wahhabisme. Eh bien, cette secte fondamentaliste a promu une branche violente, fanatique et extrémiste de l'islam. Le wahhabisme est la religion principale de l'Arabie Saoudite. Elle compte des adeptes dans de nombreux pays voisins. Les terroristes responsables de la destruction des tours de New York, au World Trade Center, le 11 septembre 2001, ainsi que la plupart des autres terroristes musulmans sont liés à cette branche importante de l'islam. Mais au milieu de toute cette violence, on peut en venir à se demander qui seront les vrais vainqueurs des guerres culturelles d'aujourd'hui. Qui remportera la victoire finale? Eh bien, la Bible enseigne que, et elle promet que ceux qui choisissent aujourd'hui d'obéir aux instructions de Dieu, aux commandements de Dieu, et quand je dis les commandements de Dieu, je dis tous les commandements de Dieu, du premier jusqu'au dixième, seront, eux, les vrais gagnants. Pour ce faire, il faudra d'abord que Jésus revienne dans la gloire sur terre, instaurer la paix universelle. Il faut bien noter que les trois religions abrahamiques, donc le judaïsme, le christianisme, l'islam, attendent l'avènement sur terre d'un roi de gloire qui soumettra toutes les nations. C'est intéressant. Le judaïsme attend l'avènement d'un messie humain. L'islam promet le retour du prophète Issa, qui n'est autre que Jésus lui-même dans la tradition musulmane. Mais le véritable christianisme est la seule religion qui annonce le retour imminent sur terre de Jésus, fils de Dieu, dans la gloire et dans la puissance divine, et pour l'éternité. Alors bien entendu, nombre de musulmans désirent vivre en paix. Cela ne fait aucun doute. Ils refusent les violences perpétrées par leurs compatriotes musulmans contre les non-croyants. C'est une évidence. Pour vous donner une idée, les statistiques montrent en effet que dans 11 pays, eh bien les deux tiers des musulmans interrogés se déclarent très préoccupés par l'extrémisme islamique. Ce n'est pas ce qu'ils ont choisi. Ils n'ont pas choisi la récrimination, ni la violence contre les autres religions. Ils veulent la paix. La richesse et la prospérité des pays, nous le savons, tout cela vient de Dieu. Dieu a fait des promesses de bénédiction, et comme sa parole est extrêmement sacrée, ces bénédictions économiques sont encore présentes, nous les voyons, dans certains pays. Mais la patience divine atteint aussi déjà certaines limites. Et l'avènement de la colère de Dieu est annoncé d'ailleurs depuis des siècles. Donc ne nous y trompons pas, ce que les nations ont semé, elles le récolteront. La prospérité des Juifs et de l'Occident fait des jaloux et des envieux, c'est une évidence. Il suffit de regarder les décisions actuelles des Nations Unies. Donc le choc des cultures dont nous parlons, nous le savons, il n'a pas pris naissance en 1948, il existait avant. À la création de l'État d'Israël en Palestine, il y a déjà eu tout de suite une guerre. Mais ce choc des cultures avait déjà commencé dès les premières désobéissances aux instructions divines, il y a très longtemps, au tout début de l'humanité. Avec cette différence fondamentale, d'une part entre la culture divine, le royaume de Dieu annoncé à Adam et Ève, et d'autre part la culture du surhomme, l'humanisme, la désobéissance aux instructions du Créateur de l'univers, symbolisée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, le fait de s'arroger qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. Nous le voyons aujourd'hui et nous en voyons les résultats dévastateurs. Car en effet, toutes ces prétendues lumières, nous le savons, ne mèneront qu'à un obscurantisme dévastateur et à la fin du règne dictatorial de l'homme sur ses semblables. Heureusement, l'humanité, dans sa très grande majorité, sera gagnante, au final. Pourquoi ? Eh bien, toutes ces tyrannies prendront fin avec le retour de Jésus-Christ sur terre, l'établissement du royaume de Dieu sur terre, tel que la Bible l'enseigne. Christ ne sera pas chaleureusement accueilli, nous le savons, par les dirigeants gouvernementaux. Il ne sera pas invité à prendre le contrôle de leur pays. Voici le Sauveur. Non. Il nous est dit dans Zacharie chapitre 14, verset 2, que toutes les nations se rassembleront pour combattre contre Jérusalem. Et il est écrit, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Bien sûr, ce sera une victoire totale pour Jésus-Christ, une victoire surpuissante, une intervention surnaturelle pour mener une guerre de libération totale. Cette guerre sera très courte, elle sera foudroyante et en une seule bataille, et elle sera menée par Dieu lui-même. Ah, bien sûr, cette victoire totale verra ensuite l'avènement à Jérusalem du véritable royaume de Dieu. Et les nations du monde entier deviendront alors, tel qu'il nous est dit dans Apocalypse chapitre 11, le royaume du monde remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. Donc des nouvelles absolument formidables, des nouvelles prometteuses. Aujourd'hui, les chrétiens de l'Église de Dieu sont les ambassadeurs pour Christ, comme le dit l'apôtre Paul. Ils obéissent à leur chef, le Fils de Dieu, au moyen de la Bible. C'est une représentation, non pas une représentation nationale, c'est une représentation royale. Une ambassade, évidemment, pacifique, qui prend note des opinions de tous, qui comprend d'ailleurs les raisons de leur présence, mais en tant qu'ambassadeurs, ils restent fidèles dans leur vie aux enseignements de Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque Christ assumera sa position de Seigneur des Seigneurs et de Roi des Rois, il exercera la justice divine et il l'enseignera au moyen d'un système gouvernemental de serviteurs choisis. Ce sera l'enseignement à toutes les nations du mode de vie de Dieu, le seul mode de vie qui peut apporter le bonheur, la paix et la prospérité pour tous. Bien entendu, Dieu n'a jamais voulu forcer qui que ce soit, quiconque, à lui obéir. Des hommes, en revanche, des religions ont voulu forcer les gens à leur obéir. C'est différent. Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est l'Éternel de l'Ancien Testament. En d'autres termes, il préservera le libre arbitre des hommes. Et il jugera l'humanité. Au fil des siècles, les chrétiens ont voulu faire porter aux Juifs le fardeau de leur propre malédiction en raison de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. C'est une erreur tragique, terrible. Lorsque des milliers de Juifs périrent à Jérusalem, par exemple, eux et leurs enfants lors de l'incendie de la ville en l'an 70 de notre ère, un incendie causé par les Romains à l'époque, répondaient-ils à des accusations de ceux de leur peuple qui sont allés voir Pilate à l'époque du Christ pour accuser Jésus? Nous lisons dans le prophète Ézéchiel cette parole de Dieu qui déclare solennellement ceci. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. Donc les choses sont claires. Chacun est responsable et doit répondre de ses propres actes. Il est écrit aussi, la justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Des principes simples, des principes justes, des principes équitables pour tous. Ceci est écrit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Ézéchiel 18, 20. Rappelez-vous l'exemple de Jésus qui pria lui-même alors qu'il était crucifié, horriblement supplicié. Que disait-il ? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'apôtre Pierre prononce ces mots dans le livre des Actes. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Donc, Dieu est miséricordieux. Nous devons, nous autres, être miséricordieux. Soyons aussi, vis-à-vis de nos frères et sœurs juifs, soyons des protecteurs. Chérissons le peuple juif. Ils sont nos frères, ils sont nos sœurs. Et montrons-leur aussi que nous les aimons. Montrons-leur par nos actes dans la justice bienveillante de Dieu. L'histoire du judaïsme, l'histoire du christianisme, l'histoire de l'islam est centrée autour de Jérusalem. Ces histoires puisent leur origine dans cette même région du Proche-Orient. Et elles ont un ancêtre commun, je le répète, le patriarche biblique Abraham. On serait en droit de s'étonner, de s'attendre au moins à ce que les croyants de ces trois religions prennent soin les uns des autres, se respectent les uns des autres, entretiennent des rapports amicaux, privilégiés, les uns envers les autres, ou tout au moins, on pourrait s'attendre à ce qu'ils se respectent. Or, nous n'en sommes pas encore là. C'est loin d'être le cas. Vous savez, depuis 1948, Israël lutte littéralement pour sa survie. Jérusalem continue d'être une véritable poudrière et un vrai casse-tête pour toute la communauté internationale. C'est évident. En revanche, ce qui est rassurant aujourd'hui, c'est que Dieu révèle sa profonde affection pour Jérusalem. Il ne l'a pas abandonnée, il ne nous a pas abandonnés. Dieu considère Jérusalem comme la prunelle de ses yeux. Et il a promis d'en faire un endroit privilégié à l'avenir, tel qu'il nous est dit dans Zacharie chapitre 1, versets 14 et 17, et Zacharie chapitre 2, verset 12. Zacharie 1, 14, 1, 17 et 2, 12. Donc les Juifs représentent à présent quelle proportion de la ville de Jérusalem ? Les deux tiers. Deux tiers de la population de Jérusalem, la portion moderne de la ville, sont juifs. Nombre d'entre eux voudraient, en effet, qu'un temple y soit construit, y soit rebâti, dans l'espoir qu'un culte puisse être restauré sur le mont du temple. Et plusieurs obstacles politiques, évidemment, des obstacles religieux, des obstacles physiques majeurs s'y opposent, pour le moment. Les chrétiens, quant à eux, ceux qui suivent les doctrines de l'Église du IVe siècle représentent environ 2% de la population de Jérusalem, qui habite toujours un certain nombre de leurs églises et de leurs chapelles. Et bien sûr, ils souhaitent maintenir la paix fragile de Jérusalem. Après tout, n'est-ce pas là le lieu de la naissance du christianisme ? Et bien que les musulmans ne représentent qu'environ un tiers de la population, ils ne sont pas prêts à céder leur mosquée d'Al-Aqsa, ni le dôme du rocher, construit tous les deux sur le mont du Temple. Des lieux saints pour eux, bien trop importants pour l'islam, pour qu'ils songent à partager le mont Moria avec les juifs, qui désirent, eux, y bâtir un temple. Donc, pour nous, que pouvons-nous faire ? Restons vigilants. Continuons de surveiller les événements à Jérusalem, c'est un endroit central en termes de prophétie. Pour le moment, les musulmans comme les juifs ont déclaré les uns comme les autres ne pas être disposés à partager ce lieu crucial du mont du Temple. La dangereuse impasse demeure et la paix à Jérusalem semble bien fragile. Et nous savons, grâce à la Bible, qu'avant le retour de Christ sur terre, eh bien cet équilibre fragile de la paix relative actuelle va être rompu. Les livres de l'Apocalypse et du prophète Daniel révèlent en effet que le sanctuaire, le sacerdoce lévitique, sera à un moment donné rétabli, puis interrompu par une nouvelle abomination du dévastateur, abomination de la désolation, rappelez-vous. Et cela aura lieu probablement, peut-être, sur le mont du Temple, bien que ce ne soit pas liturgiquement une obligation indispensable. Souvenons-nous, a priori, que le tabernacle, le lieu saint et le lieu très saint, existaient déjà dans une tente, sous une tente, au désert, sous Moïse. Sous Josué, par contre, et au temps des juges, il était à Shiloh, au pays d'Éphraïm, avant que David ne le fasse revenir à Jérusalem. Lorsque la guerre finale éclatera au temps de la fin autour de Jérusalem, il nous est dit que des armées immenses s'assembleront dans la gigantesque vallée d'Ar Megiddo, à environ 60 km au nord de Jérusalem. Alors, Ar Megiddo, qui est appelé aussi Armageddon, c'est l'origine de ce nom. Et ce n'est pas un mythe, c'est une prophétie qui s'accomplira. Mais la bataille proprement dite, elle, la bataille, aura lieu, elle, tout près de Jérusalem, dans la vallée de Jizréel. C'est ici même que Christ détruira les armées des nations qui auront cru bon d'attaquer Jérusalem, la ville du grand roi tout-puissant. Ils en seront pour leurs frais. Après le retour de Christ, Jérusalem sera rebâtie. En effet, l'or et l'argent y afflueront, l'or et l'argent des nations. Un nouveau temple magnifique y sera érigé. Grâce à la prospérité des nations environnantes, les fonds seront disponibles pour la construction d'un nouveau temple qui sera un lieu de culte pour tous les peuples. Des eaux vives sortiront aussi du temple, nous est-il annoncé, et de Jérusalem vers l'extérieur. Elles produiront la guérison physique des nations, la guérison physique et spirituelle des nations. C'est alors que Jérusalem, sera devenue enfin la ville de la paix, et cette fois pour l'éternité. L'antisémitisme, aujourd'hui, comme hier, est un mal terrible qui ronge l'humanité depuis maintenant bien trop longtemps. La bonne nouvelle, c'est que cet antisémitisme disparaîtra complètement. Bientôt, tout compte fait. La vérité surgira. Les mensonges, de même que toutes les inimitiés, les jalousies, les meurtres, toutes ces choses cesseront sous la puissance divine. Et tous les peuples, toutes les ethnies, toutes les nations de toute contrée et de tout rivage seront enseignées dans la vérité historique de l'humanité et dans la doctrine de la seule vraie religion, la religion unique de Dieu, pour vivre enfin ensemble et harmonieusement. La petite Anne Frank, cette grande dame en devenir, espérait de tout son cœur que ce jour arriverait enfin pour sa famille et pour son peuple. Eh bien, son rêve se réalisera. Elle verra à sa résurrection, elle et sa famille réunies, toutes les merveilles accomplies par le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Quant à nous, prions pour que ce jour vienne en toute hâte pour les Juifs et pour le monde entier.